Bonjour chers auditeurs.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Vous écoutez Radio Clip.
Radio Clip.
Vous êtes sur Radio Clip.
Radio Clip.
Radio Clip.
La radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.
Bonjour chers auditeurs et auditrices.
Bonjour, nous sommes des élèves du collège Moulin des Prés dans le 13e arrondissement. Bonjour, je vais vous présenter l'émission de notre classe média. Nous avons rédigé quelques sujets principalement basés sur la Tunisie. Voici le sommaire de notre émission. Adèle et Paul vont nous parler du désert. Nicolas et Fabien de Abdelatif Kechiche. Plusieurs d'entre nous vont interviewer Alain de Valpo qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Mais au fait, qui est Alain de Valpo ?
Alain de Valpo est le journaliste qui nous a fourni les informations pour notre classe média sur la Tunisie.
Parlons de la Tunisie. Paul et Adèle, c'est à vous pour nous parler du désert.
Bonjour Paul.
Bonjour Adèle.
Je vais te poser des questions sur le désert. Y a-t-il des gens qui vivent dans le désert ?
Oui, il y a des nomades dans le désert.
Comment arrivent-ils à se déplacer ?
Ils se déplacent en chameau ou en voiture, cela dépend de leurs moyens.
Mais comment trouvent-ils leur nourriture ?
Ils achètent dans des petites boutiques installées à côté de l'oasis.
Est-ce qu'il y a des animaux aussi qui vivent dans le désert ?
Alors, dans un vrai désert de sable avec des dunes et un soleil de plomb, on peut y rencontrer de grands animaux comme le dromadaire, l'âne sauvage ou la gazelle d'Orcas. On peut aussi y voir de petits animaux comme le hérisson, le goundi. Le désert accueille aussi beaucoup d'oiseaux, faisans, alouettes, fauvettes, grives, cailles, corbeaux. Enfin, c'est la terre des prédilections des reptiles, margouilla, vipère à cornes, poisson des sables, fouette-queue, agame de biberon, geckos et lézards.
Est-ce que ces animaux sont pourchassés ?
Non, ces animaux ne sont pas vraiment menacés car en général, la population ne les chasse pas pour leur pelage ou encore pour leur chair. Non, ils utilisent, comme je l'ai dit au début, pour se déplacer et le reste des animaux savent très bien survivre dans le milieu naturel.
Y a-t-il des gènes de circulation dans le désert ?
Oui, le sable encombre les routes aménagées dans le désert.
Est-ce qu'ils ont réussi à les régler ?
Oui, des ouvriers entretiennent ces routes pour éviter des incidents de la circulation.
Merci Paul. Mais tout d'abord, continuons sur l'actualité du cinéma franco-tunisien préparé par Nicolas et Fabien.
Mesdames et messieurs, nous sommes fiers de vous présenter le franco-tunisien Abdelatif Kechiche qui a remporté la Palme d'Or grâce à son film La vie d'Adèle. Né en Tunisie, Abdelatif Kechiche arrive à Nice à l'âge de 6 ans. Passionné de théâtre, il suit des cours d'art dramatique du Conservatoire d'Antibes.
Il interprète plusieurs spectacles sur la Côte d'Azur, notamment une pièce de Federico Garcia Lorca en 1978 et une pièce d'Eduardo Manet l'année suivante. Il se consacre également à la mise en scène et présente au Festival d'Avignon l'Architecte en 1981. Au cinéma, il obtient le premier rôle du Thé à la menthe d'Abdelkrim Balloul où il joue un jeune immigré algérien qui vit de petits vols.
Merci à vous deux. Nous accueillons maintenant Maëva, Carla et Jeanne qui voulaient poser des questions sur les anciens voyages de Alain de Valpo.
Bonjour.
Bonjour.
Nous avons quelques questions à vous poser.
Je vais y répondre avec plaisir.
Quels ont été vos anciens voyages ?
Alors ça, c'est pas une question très précise, parce qu'on peut y passer des heures. J'en ai fait beaucoup de voyages. Alors je vais te parler de mon premier voyage, d'accord ?
Oui.
Premier voyage, c'est le pays d'où je viens, là, puisque je débarque de l'avion. Mon premier grand voyage, c'était au Chili. Le Chili, c'est en Amérique latine. C'est tout au sud de l'Amérique latine. C'est comme un long chewing-gum qui s'étire sur 4000 km. Et donc, c'était il y a presque 20 ans, mon premier grand voyage. Et puis là, je reviens du Chili parce que j'ai été faire des reportages. C'est un pays où j'ai été plusieurs fois en reportage. Et là, je rentre, je suis encore en plein décalage horaire. On appelle ça le jet lag.
Est-ce que cela vous plaît-il de partir en voyage pour des classes ?
Alors, moi je suis avant tout un voyageur. Je pars pour mon travail. Par exemple, là je viens de partir pour faire des reportages pour la radio France Culture. Ça c'est mon travail. Mais j'ai aussi envie de partager tout ce que j'ai appris et puis tout ce que j'aime bien faire, comme voyager, découvrir, faire des reportages. Et c'est pour ça que je propose à des classes, à des élèves, de partager un peu de cette expérience et de partager cette expérience du voyage, de cette découverte. Quand je voyage, là, comme je viens de le faire pour la Radio France Culture, c'est avec les auditeurs qui vont écouter les reportages que je partage ce que je fais et ce que je découvre, ce que tous les gens me racontent. Et puis, bah, quand c'est avec des classes, je trouve que c'est bien de changer un peu de temps en temps. C'est aussi le même type de partage, mais avec vous, les élèves. Et puis, c'est aussi vous qui êtes... Il n'y a pas que moi qui partage, c'est aussi vous qui êtes... Enfin, c'est vous qui me demandez plein de choses. Donc, on est sur un vrai mode d'échange et de collaboration.
Dans chacun des pays où vous êtes allé, qu'est-ce qui vous a le plus plu et le plus déplu ?
Il n'y a pas de choses qui me déplaisent dans les pays où je vais. Chaque pays est différent, donc on ne peut pas comparer un pays à un autre. Par exemple, là, j'étais au Chili. Vous avez beaucoup parlé de la Tunisie, où j'ai été aussi en janvier-février. C'était l'objet des reportages qu'on a fait pendant 2 mois. Rien à voir entre Chili et la Tunisie. Donc, on ne va pas les comparer. Tous les deux pays ont de très bons côtés. Ils sont très différents, donc on ne peut pas comparer ce qui est différent. Par contre, il y a peut-être quelque chose qui est commun à tous ces pays. C'est les gens que je rencontre à chaque fois m'accueillent avec énormément de gentillesse. Ils sont toujours prêts à partager, à répondre à mes questions, à me proposer d'aller voir des choses. Et alors ça, évidemment, tout ça, c'est à partager avec les auditeurs de France Culture ou là, avec les auditeurs de Radio Clip ou avec les classes dans le cadre du projet Journaliste en Herbe.
Mais donc rien ne vous a déplu ?
J'ai pas de souvenir de quelque chose qui m'ait déplu. Je suis désolé.
Il n'y a aucun problème. Cela fait combien de temps que vous faites ces voyages pour des classes de journalistes en herbe ?
Oh, ça fait un certain nombre d'années. Mais alors, les choses ont changé, ont évolué. Le premier projet, il remonte peut-être à 1998. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Il n'y avait pas tout le matériel qu'on a. Donc, à l'époque, on s'envoyait des fax. Les classes m'envoyaient des fax et moi, je leur envoyais des cassettes. Ça prenait un peu plus de temps. Mais c'était un peu la même philosophie, la même idée. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était loin, un journaliste qui était en reportage, et puis des classes, des élèves qui participaient à ce reportage en lui posant des questions. Voilà, alors ça c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, on a une technologie qui a changé, qui permet de faire plein de choses. Et puis, d'année en année, le projet a aussi il a évolué, il s'est amélioré. Et aujourd'hui, on pense qu'on est arrivé, parce que je ne suis pas tout seul, il y a une association, on pense qu'on est arrivé à un projet qui tient la route. Qui, la preuve, il y a de plus en plus de classes qui souhaitent y participer.
Les religions des pays où vous êtes allés ont-elles beaucoup d'importance ?
Les religions ?
Oui.
Quel type d'importance ? Est-ce que tu peux préciser ?
Oui, les religions, par exemple, en Tunisie, elles ont de l'importance. La religion qui est l'islam a d'importance. Donc, dans les autres pays où vous êtes allés, est-ce qu'elles ont autant d'importance ?
Ah, est-ce que la religion a autant d'importance en Tunisie que dans d'autres pays ? Alors effectivement, en Tunisie, la religion est très importante, mais il y a d'autres pays où effectivement la religion est très importante. Je pense notamment en Asie, où la religion qui est très importante s'appelle le bouddhisme. Là, je reviens du Chili, il y a beaucoup de catholicisme. En règle générale, dans beaucoup de pays du monde, la religion joue un rôle très important, en France aussi, non ?
Bonjour.
Bonjour, alors Maëva.
Oui. Pendant vos anciens voyages, avez-vous profité de pays ou est-ce que vous avez travaillé tous les jours?
L'idéal, c'est de pouvoir, comme on dit, allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire faire son travail et en même temps prendre du plaisir à le faire. Et donc, par exemple, là, je viens de rentrer du Chili, mais c'était aussi le cas en Tunisie. Comme je pars longtemps, tu vois, là, en Tunisie, j'étais parti 2 mois, là, je viens de partir 1 mois. Ben, finalement, j'ai le temps de faire à la fois mon travail et de passer du temps avec les gens, avec les amis. C'est des gens qui, au bout d'un moment, deviennent des amis, parce qu'à force de passer du temps ensemble, évidemment, on devient des amis. Donc, oui, j'aime bien allier l'utile à l'agréable, et souvent, les journalistes n'ont pas le temps de faire ça, parce qu'ils doivent partir 1 semaine, 3 jours, 10 jours maximum, et là, ils ont tellement de travail qu'ils n'ont pas le temps de se faire des amis. Moi, je veux me faire des amis, donc je pars plus longtemps.
D'accord. Est-ce que vous avez été bien accueilli dans tous vos voyages?
J'ai déjà répondu et j'ai dit oui. Et ça, c'est à chaque fois une grande surprise. Parce que même quand je vais dans des pays où j'ai jamais été, alors évidemment quand je vais dans un pays où j'ai déjà été, je connais des gens, donc c'est le plaisir de se revoir. Mais comme la Tunisie par exemple, j'avais jamais été et pourtant j'ai été très bien accueilli et j'ai maintenant plein d'amis. Donc la prochaine fois que j'irai, je pourrai retourner les voir.
Lors de vos déplacements, les personnes que vous avez interviewées parlaient-elles tous le français?
Alors en Tunisie, non, tout le monde ne parlait pas français, mais c'est vrai que pour le projet, on a quand même, y a quand même beaucoup de gens qui parlent français, donc ce qu'on appelle les francophones. Donc c'est vrai que pour moi, ne parlant pas arabe, c'est aussi plus facile de parler avec des gens qui parlent français. Là, je reviens du Chili. Au Chili, je parle espagnol, donc là, je peux parler un peu avec n'importe qui. Donc ça dépend. Quand je parle pas la langue, et ben effectivement, je préfère aller voir des francophones. Ces francophones qui peuvent après, éventuellement, m'aider à rencontrer des gens qui ne parlent pas français parce qu'ils vont faire l'interprète.
Dans tous les pays que vous avez découverts, lequel a été votre préféré?
Tous les pays sont différents et je ne peux pas les comparer. À chaque fois, moi, je passe de très bons moments, j'apprends plein de choses, je fais plein de découvertes. Et à chaque fois, je suis enchanté par le pays. Ils sont tous différents et à chaque fois, ils m'enchantent pour une raison différente. Mais il n'y a pas un pays préféré.
Les cultures françaises sont-elles très différentes des cultures que vous avez pu rencontrer lors de vos anciens voyages?
La culture en France, la manière de vivre en France, hein, effectivement, est différente de la manière de vivre en Tunisie, de la manière de vivre au Chili, de la manière de vivre, effectivement, c'est pour ça que je voyage. Si j'avais envie de ne pas découvrir, enfin, de vivre toujours dans la même manière de vivre, je resterais en France. Moi, ce que j'aime bien, c'est aller découvrir de nouvelles manières de vivre. Et c'est pour ça que je voyage. Hein? Donc, effectivement, on a beau dire que maintenant, avec Internet, la globalisation, tout le monde se ressemble, c'est pas vrai.
Merci.
Bonjour.
Bonjour, Jeanne.
Oui. Pourquoi avez-vous choisi ce pays?
Pourquoi avoir choisi la Tunisie? Alors, c'est parce que dans le cadre du projet Journaliste en Herbe, on s'intéresse au pays de la francophonie. Bon, la Tunisie est un pays de la francophonie. En plus, on change de continent chaque année, puisqu'on fait une campagne chaque année dans un pays différent. Et l'année dernière, il y a 2 ans, c'était Haïti. Donc cette année, on a fait la Tunisie pour changer de continent. Et puis la Tunisie, c'est aussi un peu le hasard, parce que quand on décide de choisir un pays, on se dit tiens, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Et puis finalement, à un moment donné, on se dit non, c'est ce pays, parce que voilà, il y a un peu de hasard dans les choix. C'est bien qu'il y ait du hasard dans la vie.
Dans combien de pays êtes-vous allé?
Alors là, j'ai pas compté. Et dans beaucoup de pays. Hein, on va dire que j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine. J'ai un peu voyagé en Afrique. J'ai aussi beaucoup voyagé en Asie. Voilà. Mais alors tous les pays, je ne sais pas, on va dire 15, 20, je ne sais pas.
Y a-t-il dans un pays quelque chose qui vous est choqué? Si oui, dans quel pays?
Choqué, moi les gens vivent comme ils veulent, moi je respecte. Hein ? La première chose que doit faire un étranger ou un voyageur quand il vient chez quelqu'un, enfin dans un pays, il doit respecter un petit peu les coutumes du pays. Si vous invitez quelqu'un chez vous, par exemple, chez vous, on marche pas en chaussures, on enlève ses chaussons, on se met en chaussons, on enlève ses chaussures et on marche dans la maison en chaussons et que la personne que vous invitez, elle s'en fout et elle arrive avec ses grosses bottes, elle marche partout. C'est pas du respect. Donc ça, dans la vie entre les hommes et puis d'une manière générale chez les gens, donc quand on va dans un pays différent, c'est un peu comme si on allait dans une maison de quelqu'un et donc effectivement, il faut respecter les coutumes. C'est pas embêtant, moi, je trouve que c'est la moindre des politesses.
Ben, en fait, moi, je voulais juste... c'est pas le mot choqué, mais quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir.
Vous êtes surpris, en fait.
Ah ben moi je suis tout le temps surpris, c'est pour ça que je voyage, c'est pour voir des choses différentes. Alors il y a deux manières de voyager, il y a la mienne, que je dis voyager en tant que voyageur, c'est-à-dire qu'on fait comme les gens, on vit comme les gens, on s'adapte à la manière de vivre dans le pays. Et puis il y a la manière que moi j'appellerais touristique, qui est une autre manière de voyager et qui là, c'est pas exactement la même chose. Et par exemple, en Tunisie, il y a plein de gens qui vont en Tunisie, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à l'aéroport, de l'aéroport, ils vont dans un camp, un hôtel club ou quelque chose comme ça. Ils y passent une semaine sans en sortir. Ils font toute la journée, ils jouent à la piscine, ils vont à la plage, etc. Et puis, ils repartent de Tunisie. Au bout d'une semaine, ils reprennent l'avion. Qu'est-ce qu'ils ont vu de Tunisie? Rien, parce que l'hôtel club, le camp, a été conçu justement pour que finalement, ce qu'ils ont à manger, ben, c'est un petit peu ce qu'ils ont à manger chez eux. Ce qu'ils vont jouer, c'est un petit peu les jeux qu'il y a à la maison. Enfin, donc, il n'y a quasiment aucune différence. Pour moi, ce n'est pas voyager. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne vais jamais dans les hôtels clubs. Sinon, je reste en France. Hein, et la France est un beau pays où il y a aussi plein de choses à découvrir. Donc moi, quand je vais en Tunisie, c'est vraiment pour aller avec les gens, passer du temps avec les gens et vivre comme eux, manger comme eux, boire comme eux, par exemple du thé à la menthe, circuler comme eux dans des taxis ou dans des bus tout pourris, etc. etc. Mais voilà, vivre comme les gens.
Ce sont des gens sans importance, avec des gestes quotidiens, qui font renaître l'espérance et le bonheur entre leurs mains. Ce sont des gens sans artifice, qui vous sourient quand ils sont bien, et vont cacher leurs cicatrices parmi les fleurs de leur jardin. Ce sont des gens sans importance et qui parfois ne disent rien, mais qui sont là par leur silence quand ils sont loin.
Personne que vous allez voir ne vous rejette?
Très peu, très peu. Et puis de toute façon, les personnes, quand on appelle quelqu'un, on dit au téléphone « Bonjour, je me présente, j'ai eu votre téléphone par telle personne qui me l'a donné et puis je vous appelle pour telle raison », a priori, en règle générale, les gens s'intéressent au fait qu'on s'intéresse à eux. Hein, quelqu'un qui vient de loin et les appelle en disant « Voilà, je m'intéresse à ça, est-ce que vous pourriez répondre à quelques questions? Est-ce que vous avez quelques minutes ?» La personne, là encore, c'est de la politesse. Quelqu'un qui vient de loin poser des questions, par curiosité, par intérêt, la moindre des choses, c'est de dire « Écoutez, oui, on peut bien passer une demi-heure, une heure ensemble. Ce que j'ai à faire là, peut-être que je le ferai de demain, c'est pas grave. Hein » Donc, effectivement, la plupart du temps, c'est comme ça. Il arrive que des personnes, pour une raison ou une autre, n'aient pas envie de collaborer. À ce moment-là, elles répondent pas au téléphone ou elles disent qu'elles n'ont pas le temps, elles trouvent une excuse. Mais bon, quand on est journaliste, si on rencontre ce genre de personnes, après on se dit « je vais en appeler une autre, c'est pas un problème ». Et on trouve toujours des gens qui veulent collaborer. D'autant plus, j'ajouterais que, quand moi je les appelle et que je dis que ce sont de jeunes élèves, des élèves en France, qui sont curieux, qui s'intéressent au pays, qui ont plein de questions à poser sur la coutume, ce qu'on mange, etc. Alors là, les gens sont juste enchantés de pouvoir partager ce qu'ils savent et de pouvoir raconter ce qu'ils ont à raconter. Et je crois que dans tous les reportages qu'il y a eu sur le site internet que vous avez peut-être pu découvrir, dans l'Oasis, à Tunis, etc. Tous les gens, je crois, ont, vous avez compris, collaboré et répondu avec énormément de gentillesse et énormément de plaisir à toutes vos questions.
Merci, au revoir. On va passer la parole à nos camarades.
Au revoir et merci de m'avoir invité. Hein.
Au revoir.
À tous ces gens sans importance, avec lesquels on est si bien, qui font renaître l'espérance, et sans lesquels on n'est plus rien.
Merci à toutes les trois. Et pour clore notre émission, une dernière interview sur le thème du projet futur de Alain de Velpeau. Nous accueillons Gabriel et Ferab.
Bonjour Ferab.
Bonjour Gabriel.
Bonjour à vous.
Monsieur Alain de Velpeau, nous allons vous poser quelques questions sur votre futur thème qui est, je crois, la Roumanie.
Alors effectivement, la campagne Journaliste en herbe 2013-2014, donc celle de l'année prochaine, sera consacrée à la Roumanie.
Alors, pourquoi avez-vous choisi la Roumanie ?
Pourquoi la Roumanie ? Parce que Journaliste en herbe, ça se déroule dans les pays de la francophonie. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la Roumanie est un pays de l'espace francophone. Et il y a des francophones, donc des gens qui parlent français en Roumanie. Et puis parce qu'on change de continent chaque année. Et que cette année, là, les auditeurs l'ont compris, c'était la Tunisie. Et que là, on va venir vers l'Europe centrale, vers la Roumanie.
Est-ce que vous avez déjà une idée des thèmes qui vont être abordés ?
Alors la Roumanie, c'est un pays qu'on ne connaît pas beaucoup. Alors en France, on parle toujours de ces Roumains qui viennent. On entend plein de choses sur comme quoi les Roumains seraient des voleurs. Enfin voilà, il y a plein de choses autour de ça. Donc on pense que ce n'est pas vrai. Donc on va aller voir en Roumanie comment les choses se passent. Et puis on va essayer de comprendre pourquoi, par exemple, il y a plein de Roumains qui viennent en France. Mais c'est aussi un pays un peu mystérieux parce qu'il y a quelqu'un de très connu qui habite ou qui a habité en Roumanie, c'est Dracula. Donc Dracula, le pays Dracula, ça c'est un pays qui ça nous intéresse beaucoup. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens d'aller à la découverte de ce pays qui est un peu mystérieux.
Et donc, est-ce que vous avez parlé des lasagnes Findus ?
Voilà, j'en sais rien parce que je te rappelle que le projet Journaliste en herbe, c'est un projet où des classes sont en correspondance avec un journaliste professionnel qui lui est en voyage et que ce sont les classes, les élèves, qui choisissent à la fois les sujets de reportage et les questions à poser. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas encore quels sont les élèves qui vont participer. Ça sera à eux de savoir s'ils veulent parler de ça ou d'autre chose.
Est-ce que vous allez faire comme cette année et d'autres précédentes ? C'est-à-dire, est-ce que les Roumains vont poser des questions à la France ?
Alors, on espère qu'effectivement, on va aussi, ça va être aussi possible. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas. On espère aussi, en plus de ce projet, qu'en Tunisie, puisque cette année c'était en Tunisie, que des enfants tunisiens puissent faire un projet un peu similaire, qu'on va appeler Globe Reporter, c'est-à-dire des enfants tunisiens qui seraient en reportage ou qui seraient en correspondance avec un journaliste tunisien qui viendrait enquêter en France. Ça, c'est un autre projet.
Est-ce que nous pouvons participer au projet Roumanie l'année prochaine ?
Alors vous, vous avez participé au projet Tunisie. Est-ce qu'une classe qui a participé à ce projet peut participer une autre année au projet suivant ? Écoutez, a priori, il n'y a pas de problème. Ça dépend du projet que vous avez. Hein, nous, quand on choisit, on ne peut pas accepter toutes les classes. Alors, on dit voilà, on part en Roumanie, les classes et les enseignants et les élèves qui veulent participer nous écrivent, nous disent nous, on aimerait bien participer parce qu'on a envie de faire ça, ça, ça et ça. Comme nous, on ne peut pas travailler avec tout le monde, on fait une sélection. Et cette sélection, c'est en fonction des projets que les gens ont. Donc, par exemple, si l'année prochaine, vous montrez que vous avez vraiment envie de faire plein de choses autour de la Roumanie, pourquoi pas ? C'est tout à fait possible.
Faut-il faire beaucoup d'années d'études pour faire le métier de journaliste ?
Alors, pour devenir journaliste, il faut faire des études. Alors, il y a des écoles de journalistes dans lesquelles on rentre après avoir passé le bac et puis après avoir fait plusieurs études. C'est souvent sur concours pour les meilleures écoles. Voilà. Mais moi, par exemple, je n'ai pas fait d'école de journalisme. On peut aussi devenir journaliste sans avoir forcément fait des écoles spécialisées. Moi, j'ai par exemple fait des études d'histoire. Je m'intéresse un peu à tout. J'ai beaucoup voyagé. C'est comme ça que je suis devenu journaliste. Donc, pour devenir journaliste, il y a plusieurs chemins. À chacun de choisir le sien. Mais ce qui est certain, c'est qu'il vaut mieux avoir quand même fait des études. Hein, parce que pour être un bon journaliste, il vaut mieux avoir une bonne culture générale, à savoir quand même beaucoup de choses.
Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans le métier de journaliste ?
Alors, figure-toi qu'il y a, je ne sais pas, encore 20 ans, en France, il y avait 3 écoles de journalistes. Alors évidemment, quand les gens sortaient de l'école, ils avaient forcément du travail. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y en a des dizaines et des dizaines. Alors, il y a des écoles, il y a les universités. Bref, pour devenir journaliste, effectivement, aujourd'hui, ça devient très compliqué. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, mais chacun a ses raisons. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier. Beaucoup d'écoles, d'universités qui proposent de faire ce métier. Mais aussi beaucoup de gens qui, après avoir fait ces études, se retrouvent sans travail. Donc c'est aujourd'hui un peu compliqué de devenir journaliste, même si on a l'impression qu'avec Internet, plein de chaînes de télévision, plein de chaînes de radio, c'est facile de travailler. C'est pas si facile. Effectivement, en plus aujourd'hui, il y a cette idée que l'information, ça peut être gratuit. Hein, puisque quand tu prends le métro, on te donne un journal, c'est gratuit, ça coûte rien. Oui, mais l'information, c'est un travail et donc il faut pouvoir payer cette information et il faut pouvoir surtout payer les gens qui font cette information. Donc voilà, je suis un peu confus, mais effectivement, il y a beaucoup de concurrence et moi, je vois beaucoup de jeunes journalistes arriver dans ce métier et puis être, comme on dit, un peu en précarité.
Je voulais juste savoir, donc vous nous aviez dit il y a 20 ans, il n'y avait que 3 écoles. Et c'était juste tout à Paris ou dans d'autres villes ?
Non, il y en avait une à Paris, il y en avait une à Lille. Il y en avait en fait 2 à Paris et une à Lille. Maintenant, il y en a un peu dans toute la France.
Merci.
C'est maintenant la fin de notre émission. Nous remercions tous ceux qui ont le courage de présenter leur thème. Merci à Alain de Valpeau qui a accepté de répondre à nos questions. Merci à tous et à bientôt peut-être.
Radio Clip, c'est fini pour aujourd'hui.
Ah bon ?
Le Padawan a dit vrai.
L'émission a été produite par Gwenaël Guillaume et réalisée par Lionel Chevalier.
C'était très bien ! C'était très bien !
Merveilleuse intelligence que celle d'un enfant.
On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.
Sur le site de Radio Clip, CLYPE.
À bientôt.